السلام عليكم ورحمة الله. Avant de commencer, c'est le livre hein, qu'on va faire. Si vous l'avez déjà vu, c'est la seule édition que je connais hein, du livre. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'ouvrage que, si Allah nous le permet et nous facilite la tâche que nous allons étudier ensemble, s'intitule « Ma hiya as-salafiyya ». Qu'est-ce que la salafiyya ? Que signifie, quelle est la définition de la salafiyya ? Qu'est-ce qu'on comprend par ce terme, ce mot, la salafiyya. En français, je préfère dire le mot salafiyya et non pas salafisme. Bien que c'est une histoire de terminologie, comment l'employer. L'essentiel, le plus important, c'est le contenu. Mais seulement, souvent, ce qui se termine par isme a une mauvaise connotation. Donc, c'est mieux de garder le terme comme on l'emploie en arabe. La salafiyya, sans trop s'attarder là-dessus. Du cheikh, al-doktour, al-oustad, Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullahu ta'ala. Donc c'est un cheikh, professeur et docteur de l'université islamique de Médine. C'est un médinois. Donc il s'appelle Abdullah, fils d'Abdurrahim al-Bukhari, qui est âgé d'environ, je ne sais pas trop, mais environ une cinquantaine d'années, ou un peu plus. Il est né dans les années 60. Hafidhahullahu ta'ala. Il est déjà venu en France, il y a très longtemps. Dans les années à peu près 99-2000, il était venu à Roubaix. À l'époque, des frères à Roubaix organisaient des séminaires avec des mashayikh et des savants. Et aux environs de 99 ou 2000, Cheikh Abdullah al-Bukhari, il était venu pour un séminaire. Il était accompagné d'un autre cheikh de Médine qui s'appelle Cheikh Saleh al-Sindi. Puis, en juillet 2001, nous avions organisé avec les frères de Roubaix aussi, mais ensemble, un grand séminaire à Aulnay-sous-Bois. C'était à l'ouverture de la mosquée de la Rose des Vents, pour ceux qui connaissent la grande mosquée qui est à Aulnay-sous-Bois. Un séminaire qui a duré deux semaines, pendant le mois de juillet 2001. Donc, par la première semaine, nous avions Cheikh Abdullah al-Bukhari et Cheikh Saleh al-Zubaydi, un autre Cheikh de Médine, professeur à l'université islamique aussi. Et la deuxième semaine, nous avions le Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafidhahullah ta'ala. Il est resté une semaine, la deuxième semaine, avec nous ici, qui est un cheikh et un savant de la Mecque, professeur à l'université Umm al-Qura, c'est l'université islamique de Mecca, qui se trouve plus précisément à Al-Aziziyah, qui est à la périphérie, dans la banlieue de la Mecque. Cheikh Abdullah al-Bukhari, il est spécialisé dans le hadith, comme beaucoup de mashayikh. Cheikh Mohamed Bazmoul de même, Cheikh Mohamed Ben Hadi de même. Beaucoup de mashayikh ont préféré choisir cette spécialité dans la science du hadith. Donc c'est, à la base, c'est leur domaine. Donc lui, il est docteur dans le hadith et il est professeur dans la faculté du hadith. Qu'Allah les préserve tous. Donc, il dit dans son introduction, Hafidhahullah ta'ala, après avoir mis et commencé par Khutbatul Hajj, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, jusqu'à la fin, puis la récitation des trois versets coraniques dans lesquels Allah nous enjoint sa crainte et sa piété, subhanahu wa ta'ala. Puis après ceci, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Le meilleur guidé, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses, ce sont les nouveautés, c'est-à-dire en religion. Et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène dans le feu et de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Khutbatul Hajj, qui est une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, parmi beaucoup de sunnas qu'il a fait revivre, il y a cette sunna. Et il a même écrit un ouvrage dans lequel il a compilé toutes les narrations de Khutbatul Al-Hajj. طيب. Puis le cheikh dit wa ba'd fa abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala wa uthni 'alayhi al-khayra kullah fala khayra yudraku illa bi'awnihi ta'ala. En général, je pense que ceux qui ont le livre, il est mashkoul, hein? Il y a le shakl, il y a les petites voyelles, hein, d'accord, c'est bien et c'est pas bien. Le Coran, les ulama disent qu'il faut toujours garder les petites voyelles, toujours. Mais en dehors du Coran, le mieux c'est de ne pas les mettre. Déjà à la base, quelqu'un qui sait lire l'arabe, il saura lire. Mais le problème du shekel, en le mettant, c'est quoi? C'est que s'il y a une erreur, tu commettras l'erreur. Et très peu vont découvrir comme quoi il y a, ou remarquer qu'il y a une erreur de frappe. Donc ils vont lire. Au lieu de s'en remettre à leur lecture à eux et leur niveau et compréhension de la grammaire arabe, eh ben, ils vont s'en remettre à ce qu'ils voient. Donc, ils vont lire avec l'erreur. Et, et parfois, il y a ce qu'on appelle des erreurs de frappe. Dans l'imprimerie, hein, même avec le portable, hein, vous savez très bien, des fois, on envoie des phrases, on se retrouve avec des mots et ainsi de suite qu'on n'avait pas voulu envoyer. Donc, il y a des erreurs. Ça arrive qu'il y ait des erreurs ou même une erreur qui est faite par celui qui a mis le shekel. C'est lui qui a commis l'erreur. Et derrière, et ben les gens vont aussi commettre cette erreur-là. Bon. C'est une aide, hein. C'est pour aider les gens. C'est clair qu'il y a beaucoup d'aide dedans, mais il faut faire attention qu'il se peut parfois qu'il y ait des erreurs. Donc il dit, je commence par les louanges à Allah, les éloges. Faites à Allah, c'est lui seul qui est en droit de les recevoir, qui les mérite. Subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il et élevé soit-il. Donc il fait les éloges parce que tout bien, quel qu'il soit, qu'on a reçu, nous parvient d'Allah Azza wa Jal. Et on n'a pu y avoir accès que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas un bien qu'on ait pu atteindre si ce n'est par la grâce d'Allah élevé soit-il. Wa inna min tamam fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa' fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah najtami'u fi baytin min buyutillah natadhakaru Allah. Donc Ici, il fait allusion qu'à la base, donc là, c'est une conférence. Hein. Beaucoup d'écrits des ulama sont parfois contemporains. C'était des conférences, puis la conférence, le shir la retravaille pour la préparer, pour qu'elle soit publiée. Car le parler n'est pas comme l'écrit. D'accord ? Donc, à la base, ici, il parle que donc c'est une conférence qui est faite dans la noble ville et la ville sacrée qui est la Mecque, bénie. Donc, et en plus de cela, non seulement dans la Mecque, mais dans une des demeures d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans une des mosquées d'Allah Azza wa Jal, pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Il dit dans l'annotation, ألقيت هذه المحاضرة في جامع فقيه بحي العزيزية بمكة المكرمة شرفها الله يوم الخميس العاشر من شعبان 1431 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المقامة في مسجد السبيل بمكة المكرمة. Donc c'est une conférence qui a été donnée dans la mosquée qu'on appelle Faqih, qui est dans le quartier de l'Aziziyah, donc à la Mecque. C'était le jeudi 10 Sha'ban 1431, donc il y a plus de 6 ans de ça. D'accord ? Pendant le grand séminaire de l'imam revivificateur Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui était elle organisée dans la mosquée Subayil à Mecca. Donc le cheikh avait participé à ce séminaire et il a fait cette conférence qui a pour thème Mahiya al-Salafiyya. Fallaha as'al an yaj'alana jami'an mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsana innahu sami'un mujib. Nous demandons à Allah de faire de nous tous des personnes qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'il y a de mieux, car il est celui qui entend et celui qui répond, qui exauce. Ayyuha al-ikhwa, chers frères, kana an-nasu qabla ba'thati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi jahiliyyatin wa amayatin. Les gens avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'envoi du prophète Mohammed, ils étaient dans un état d'ignorance générale. C'était l'ignorance et un aveuglement. C'est-à-dire qu'ils étaient loin des enseignements prophétiques, loin de la guidée, loin de la véritable religion. Ça, c'est la situation du monde avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on dit al-jahiliya, on entend par là avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'époque pré-islamique. L'islamique ici, il est voulu depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Non pas comme certains sectaires qui essaient de faire croire que le siècle qu'on a vécu, le siècle, le 20e siècle, pour parler du calendrier grégorien, le 15e, 14e et 15e siècle du calendrier musulman, qu'ils disent qu'on est dans une jahiliya bien plus grande que celle qui était avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est faux. C'est une exagération et un mensonge. Et en plus, provenant de gens qui ne sont pas connus pour la science religieuse et qui ne sont pas des références dans le domaine. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'ils tombent dans des erreurs comme celle-ci. Et ceci montre que ces gens-là, en vous disant ce genre de phrase, c'est pour dire, il y en a même qui l'ont dit clairement, que toute l'humanité, c'est-à-dire toute la communauté musulmane, elle est retombée dans une mécréance totale. Il n'y a plus d'islam. Et ça, c'est parmi ceux qui ont prôné cela, Sayyid Qutb. Donc non seulement il s'attaque à la communauté musulmane, du gouvernant jusqu'au plus petit gouverné, en passant par les imams des mosquées et ceux qui font l'adhan, personne n'a échappé à sa parole, c'est lui-même qui le dit. Même celui qui répète 5 fois par jour l'adhan, il est dedans. Et avant cela, et pire que cela, il a touché aux compagnons, radiallahu anhum. même jusqu'à même à dénigrer et à mal parler de certains prophètes, comme le prophète Moussa, alayhi salam. Donc, il n'y a plus de limite, ces gens. Ils se croient qu'avec leur raisonnement, leur réflexion, hein, on n'a pas à leur dire qu'il y a des limites ou qu'il y a des points à ne pas dépasser. Non, ils transgressent des enseignements clairs de l'islam. Wallahu al-musta'an. Sans parler des erreurs dans la croyance, le dogme, et ainsi de suite. Donc vous avez des gens qui le défendent de toute leur force. Et de l'autre côté, ils te disent, les chiites, rawafid, ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent aux compagnons. Sayyid Qutb s'est attaqué aux compagnons. Il a rendu mécréants des compagnons. Là, ce n'est plus la même chose. Donc c'est quoi le problème des rawafid? Idem. Quel est le problème des rawafid? Si ce que vous leur reprochez, vous ne le reprochez pas à Sayyid Qutb. Ou alors, si vous en arrivez à lui reprocher, vous essayez de trouver un échappatoire. En disant, non mais il s'est repenti. Montrez où il s'est repenti. D'abord les ulama qui ont remarqué ces gravités chez Sayyid Qutb, où ils les ont trouvées? Dans les ouvrages, dans les livres de Sayyid Qutb. Des livres qui ont été publiés après sa mort. Des éditions publiées après sa mort. Comment se fait-il que ça n'a pas été corrigé? Supervisé par son propre frère Mohamed Qutb. C'est Mohamed Qutb qui a, en premier, propagé les ouvrages et les écrits de son frère. Donc comment ils peuvent dire, le jour où quelqu'un vient faire la remarque ou la critique, non, mais il s'est repenti. Ben, comment ça se fait que c'est encore dans les livres? Et en plus de cela, il n'y a aucune annotation qui viendrait critiquer ou mettre en garde contre ces déviations. Wal'iyadhu billah. Mais ça, c'est le sectarisme. Un des problèmes du sectarisme, c'est que tu n'es même plus objectif. Le faux ne sera faux pour toi que lorsque la secte te le dira et te le dictera. C'est la secte qui va te le dire. Ce qui était interdit aujourd'hui, demain il est autorisé. Parce que c'est la secte qui va te dire. C'est elle qui dicte. Tu reçois tes ordres. Wal'iyadhu billah. Donc ils disent, oui, mais il ne faut pas être à la botte du gouvernant. Des termes qui n'ont pas lieu d'être. On obéit à Allah et à son prophète. Allah nous demande d'obéir au gouvernant. Son prophète nous demande d'obéir au gouvernant. En quoi l'obéissance au gouvernant veut dire que tu légitimes le mal ou l'erreur ou l'égarement qu'il a? Il t'est demandé, toi, de te comporter ainsi. Il te demande, il t'ordonne une chose qui ne contredit pas la religion, tu te dois d'obéir. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tous les ordres ou les égarements qu'il a. Quand on dit à quelqu'un, obéis à tes parents, ça ne veut pas dire que tu légitimes la mécréance de ceux que les parents sont mécréants ou l'égarement de celui dont les parents sont égarés. Subhanallah, mais quand tes parents te demandent quelque chose, tu leur dois écouter obéissance. Ça ne veut pas dire que tu légitimes. Eux, ils disent ça, et au même moment, ils demandent à leurs adeptes d'écouter, d'obéir sans discuter les ordres de leur direction. Wal'iyadhu billah. Alors que là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une autorité. L'allégeance qui leur est donnée est une allégeance qui n'est pas acceptée, non légiférée, contraire à l'islam. Ils font des états dans un état. Wal'iyadhu billah. Donc, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité était dans un état d'ignorance et d'aveuglement. Min shirkin wa zulmin wa riwayatin. Ils étaient dans un état de polythéisme, d'injustice et de déviation et d'égarement. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment a envoyé l'élite, le maître des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam le dit bien, ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Je suis le maître l'élite des enfants d'Adam. Je le dis sans vantardise. C'est une réalité, c'est Allah qui lui a donné cette place. Alayhi salatu wassalam. À un moment, pendant une période, où pendant longtemps il n'y a pas eu de prophète. Al-Fatra, c'est un vide. C'est une période, un temps dans lequel il n'y a pas eu de message. Dans lequel il n'y a pas eu de message. Donc il n'y a pas eu de messager envoyé. Ala fatratin min ar-rusul. Et entre l'avant-dernier prophète, c'est Isa alayhi salam, Jésus, Ibn Maryam, fils de Marie alayhi salam, et entre lui et le prophète Mohammed alayhi salam, il y a eu 6 siècles, 600 ans où il n'y a pas d'envoi de prophète. Il n'y a pas d'envoi de prophète. Mais il y avait, par-ci, par-là, des personnes qui étaient restées sur le monothéisme. L'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Mais très peu. Très peu. Il y en avait chez les gens du livre. Et on a des récits, comme le récit de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, qui cherche la vérité et qui va de prêtre en prêtre jusqu'au dernier qui lui dit d'aller en Arabie. Et puis il va se retrouver en Arabie et suivre le prophète alayhi wassalam, et il va voir les signes qu'on lui a enseignés du prophète alayhi wassalam. On a aussi les récits de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, dont le prophète alayhi wassalam l'a déjà rencontré avant d'être prophète et qui était monothéiste. On a le récit de Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija radiallahu anha, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est venu à toi dans la grotte, c'est celui qui est venu à Moussa alayhi salam avec la révélation, en parlant de Jibril alayhi salam. Donc il y en avait quelques-uns qui étaient sur le monothéisme. Mais d'un point de vue général, c'était l'égarement total et l'aveuglement total. ليقيم الملة العوجاء, pour redresser la nation qui est tordue, déviante, qui penche. فيقول لا إله إلا الله, afin qu'ils disent et qu'ils prononcent cette formule qui est la clé d'entrée dans l'islam, لا إله إلا الله, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. فيفلحوا, et là ils auront gagné, ils auront la réussite. فَجَاءَ مَعَهُ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, avec lui est venue la vérité et est tombé le faux. جَاءَ مَعَهُ الْهُدَى جَاءَتْ مَعَهُ الْحَيَاةِ جَاءَ مَعَهُ الْعَدْلِ وَمَحَى اللَّهُ بِهِ الشِّرْكِ, avec lui est venue la guidée, est venue la vie, la véritable vie. Est venu avec lui la justice. Et Allah tabarak wa ta'ala, par son biais, a effacé le polythéisme. Arsalahu Allah jalla fi'ulah rahmatan lil'alamin, bashiran wa nadhira, bashiran liman amana bih wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatih. ففرق الله به بين الحق والباطل. Allah تبارك وتعالى l'a envoyé comme miséricorde vers les mondes, comme annonciateur et avertisseur. Annonciateur, c'est-à-dire celui qui amène la bonne annonce pour ceux qui ont cru en lui, et avertisseur contre ceux qui vont désobéir et contrer sa sunna. Allah tabaraka wa ta'ala, avec lui, il a séparé, distingué entre la vérité et le faux. قال الله جل في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Les deux versets 15 et 16 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie. Dans le sens du verset, ô vous les gens du livre, les gens du livre, il est voulu par cette phrase les chrétiens et les juifs, hein, c'est le mot qui les réunit, on les appelle les gens du livre, Ahlul Kitab. Est venu à vous notre messager pour vous clarifier beaucoup de choses que vous cachiez du livre. Car les juifs et les chrétiens, l'évangile et la Torah, beaucoup de gens étaient illettrés. Les gens de religion, c'était eux qui étaient lettrés. Et ils cachaient des passages et montraient des passages. Ils ne disaient pas toute la vérité aux gens. Ils disaient ce qui les arrangeait, ce qui allait dans leur sens. Et ils cachaient des passages qui allaient à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu aussi pour démontrer ce qu'il cache, pour clarifier la vérité. Et il passe sur beaucoup de choses. Est venu à vous de la part d'Allah une lumière et un livre clair avec lequel Allah guide ceux qui suivent son agrément vers les chemins du salut et les sorts des ténèbres vers la lumière de par sa volonté, et il les guide vers une voie droite, un chemin droit. قال الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم يبين الحق انتهى كلامه رحمه الله. Le grand imam, le hafiz, Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, l'imam des mufassirin, l'imam des exégètes, comme c'est le surnom qu'on lui donne, c'est le grand imam de l'islam, de la sunna, le grand imam dans le tafsir et dans l'histoire. Il a une encyclopédie dans l'histoire. Et ce qui est traduit en français, je ne sais pas s'il y est encore, mais il y a quelques décennies, il y avait ce livre-là, je pense que c'est des orientalistes ou autres qui ont traduit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les islamologues. Avant, on ne disait pas le mot islamologue, on disait les orientalistes. Après la décolonisation, maintenant les spécialistes, entre guillemets, de l'islam, on les appelle les islamologues. Avant, on les appelait les orientalistes. Ils ont traduit un livre qu'ils ont intitulé « Les chroniques de Tabari ». Les chroniques de Tabari. Ce n'est pas la traduction du livre de l'imam Tabari. C'est la traduction d'un résumé. D'abord, en français, on voit bien que le volume n'est pas comme le Tahrir de Tabari. Et ce résumé est un résumé fait par un perse, chiite, rafidi, au 19e siècle, en 1800 et quelques. Donc c'est la traduction d'un résumé fait par un rafidi. Donc on n'est pas étonné de tout ce qu'il y a comme atrocité dans ce livre-là, qu'après les gens disent « At-Tabari a dit ». Subhanallah. Et il a un grand tafsir. Et les ulama disent que le tafsir d'Ibn Kathir, très célèbre, une des références dans le tafsir, il est considéré comme un résumé de tafsir At-Tabari, qui est plus difficile d'accès. C'est un très, en 15 volumes ou plus. Et en plus, là, il y a beaucoup de chaînes de narration. Il est très utile et bénéfique pour les ulama, les gens de science. Et Al-Hafiz Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, qui en général publié en 4 volumes, en général, ça dépend des éditions, c'est comme un résumé de tafsir de Tabari. Et le tafsir de ce grand savant contemporain qui est mort dans les années 50 du calendrier grégorien, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, tafsir al-Karim al-Rahman, fi tafsir al-Kalam al-Mannan, le tafsir qu'il a, c'est un gros volume, il est considéré comme un résumé, d'accord, de tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir. C'est ce qu'on retient du tafsir d'Ibn Kathir, rahimallahu al-jami'a. Donc l'imam al-Tabari, rahimahullah, l'imam des Mufassirin, il dit dans son tafsir sur ce verset coranique, il est voulu par An-Nur, la lumière citée dans le verset coranique, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a illuminé, Allah l'a fait de lui une illumination de la vérité. Par lui, Allah a fait apparaître l'islam et a fait disparaître ou tomber le polythéisme. Donc il est une lumière pour celui qui se sert de lui, alayhi salatu wassalam, pour montrer et clarifier la vérité. Ici se termine la parole de l'imam Abu Ja'far al-Tabari, rahimahullah ta'ala. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. الإمام البخاري عليه رحمة الله, il rapporte dans son sahih, dans son authentique, d'après Ata ibn Sa'ib, rahimahullah, un tabi'i, Ata ibn Sa'ib, rahimahullah, qui dit, j'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As, le fils et le père, ce sont des compagnons, radiyallahu anhuma, et je lui ai dit, informe-moi sur la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Comment le prophète il est décrit dans la Torah? قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. Il dit bien sûr que je vais t'en parler. Comment il est décrit dans la Torah? Je jure par Allah qu'il y est décrit comme il est décrit en partie dans le Coran. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Dans le sens du verset, ô toi le prophète, certainement nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur et avertisseur. Wahirzan, ça c'est, il dit voilà les descriptions qu'il a su dans la Torah. Wahirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli, sammaytuka al mutawakkil, laysa bifadhin wala ghalidh wala sakhabin fil aswaq. ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Et un protecteur des illettrés. Les illettrés, ce sont les Arabes. C'est le terme qu'on leur donnait à l'époque. On les appelait al-Ummiyin, Parce que ce qui la généralité de ce peuple, c'était d'être analphabète, illettré. Très peu connaissaient l'écriture et la lecture. Donc en général, c'était un peuple d'illettrés. Donc on les appelait comment ? Al-Ummiyin. Et dans le Coran, c'est comme ça qu'ils sont appelés. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Dans le sens du verset, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager parmi eux. En parlant du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et lui-même, il est décrit ainsi. On l'appelle al-Nabi al-Ummi, le prophète illettré, alayhi salatu wassalam. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé al-Mutawakkil, celui qui cherche refuge, qui s'en remet auprès d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas dur dans les propos ou dur de cœur, ni une personne qui crie dans les marchés, Et il ne repousse pas le mal par un mal, mais il pardonne et il laisse passer. Allah ne prendra son âme que lorsque la communauté ou la nation qui était tordue, déviante, elle soit droite. Lorsqu'ils vont dire « La ilaha illallah » que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Et de là, il redonnera la vue à des yeux qui étaient aveuglés, l'ouïe à des oreilles qui n'entendaient pas, et ouvrira des cœurs qui étaient scellés. Voilà un aperçu de la description du prophète sallam dans la Torah que nous rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, et c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. وروى الإمام الترمذي في الجامع والشمائل. الإمام الترمذي رحمه الله il rapporte dans son جامع. الجامع c'est les sunan. On l'appelle aussi الجامع. Il a deux noms. الجامع et السنن. C'est les sunan de الترمذي. Et dans الشمائل. الشمائل ce sont les descriptions. C'est un recueil de hadith de l'imam al-Tirmidhi, indépendant des sunan, qu'on appelle al-Shama'il al-Muhammadiyya, c'est-à-dire les aspects, les descriptions du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a un résumé qui contient que les récits authentiques, résumé par un cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, qui s'appelle Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyya. والإمام ابن ماجه في السنن est rapporté aussi par Ibn Majah, l'imam Ibn Majah, dans ses sunan, bi-isnadin sahih, avec une chaîne de narration authentique, an Anas, d'après Anas, ici, Anas c'est Anas Ibn Malik, radiyallahu anhu, annahu qal, lamma kana al-yawmu, الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. Donc, Anas radiallahu anhu nous parle de ces situations, de deux situations, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé lors de la hijra, de l'émigration, et qu'il est entré à Médine. Et l'autre situation, c'est lorsqu'il quitte le monde, ce bas monde, alayhi salatu wa sallam. Donc il dit, et Anas il est témoin de cela, il dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est entré à Médine, toute Médine était illuminée. C'est une lumière qui est venue illuminer toute la ville. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, alors tout s'est assombri. Et lorsque nous avons terminé, nafadna al Rasulillah sallam al aidi, c'est-à-dire qu'on a terminé de l'enterrer, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'on s'est essuyé les mains de la terre et du sable qu'il s'y trouvait. Nafadna al aidi, c'est-à-dire on a terminé l'enterrement du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on était en plein enterrement, nous avions tous oublié nos propres personnes, tellement que c'était un moment difficile qu'ils en sont arrivés à s'oublier eux-mêmes. وَهَذَا التَّعْبِيرُ Cheikh Abdullah, Hafidhullah dit وَهَذَا التَّعْبِيرُ تَعْبِيرٌ عَنِ اللَّوْعَةِ بِفَقْدِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشِّدَّةِ تِلْكَ السَّاعَةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَنْكَرُوا أَنفُسَهُمْ من شدة حزنهم على فراقه صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. Donc cette expression employée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est une expression pour nous montrer la douleur qu'avaient les compagnons lors de la disparition du prophète alayhi salatu wassalam, et que c'était un moment très difficile pour eux, de sorte qu'ils ont oublié leur propre personne, tellement qu'ils étaient attristés de cette séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec sa mort alayhi wa sallam aussi, la révélation s'est arrêtée. La révélation qui n'est donnée qu'au prophète et au messager, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est arrêtée. Contrairement aux extrémistes parmi les soufis qui prétendent que leurs maîtres, les maîtres de l'égarement et de la déviation, des gens qui sont ancrés dans le polythéisme et la mécréance, wal'iyadu billah, qui disent que eux sont en relation directe avec Allah et qu'ils parlent avec Allah et qu'ils reçoivent d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à se moquer des gens de la science en disant, vous, votre connaissance, vous la prenez de mortel. Vous dites, un tel m'a enseigné, un tel lui a enseigné, un tel lui a enseigné. Alors que nous, on ne passe pas par le même chemin que vous. Nous, on l'apprend directement du vivant qui ne meurt pas. Wal'iyadu billah. Ça, c'est de l'égarement total. Wa rawa al-imam al-Bukhari fi sahih an Jabir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. L'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, rapporte dans son authentique, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, lorsqu'il prêchait le vendredi, il se mettait debout sur un tronc d'un arbre ou d'un palmier. Et il y a une femme parmi les Ansar, ou un homme, l'un des deux, qui a dit au messager d'Allah, on voudrait te faire pour toi un minbar, une chaire, sur laquelle tu monterais pour faire le prêche à la place de ce tronc. Il a dit, si vous voulez, alayhi salatu wassalam. Alors, ils lui ont fabriqué un minbar. Et il est connu que le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait trois marches. Le minbar du prophète, il comportait trois marches. Et lorsque on était l'autre vendredi, on l'a ramené au prophète alayhi salatu wassalam. Et il est monté dessus pour faire son prêche. Pendant qu'il est dessus, il fait son prêche, ils entendent, même les compagnons, un bruit venant du tronc d'arbre ou de palmier. Il pleurait comme un enfant qui pleure. Un enfant qui cherche à être consolé. Subhanallah. Et là, les compagnons, ils entendent. Ils ont dit que ça ressemblait aux pleurs d'un enfant. L'enfant qui pleure, et même quand il arrive plus à pleurer, hein, ça monte. Le tronc, il était dans cette situation-là. Alors le prophète, sallam, en voyant ça, il est descendu du mimbar, il est parti vers le tronc et il l'a pris dans ses bras. Il a pris le tronc dans ses bras, alayhi salatu wassalam, et le tronc a commencé à s'arrêter de pleurer comme un enfant que son père ou sa mère le prend dans les bras et il s'arrête. Mais vous savez, un enfant qui a beaucoup pleuré, il ne peut pas s'arrêter à la seconde près. Il va s'arrêter petit à petit. Il y a toujours encore des restes de ses pleurs. Donc, il avait cette situation-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons, il pleure du fait que je ne monte plus dessus. Et quand je montais dessus, il entendait le rappel d'Allah, Azza wa Jal. Lidha, كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا روى هذا الحديث بكى. L'imam al-Hassan al-Basri, un des grands imams des tabi'in, rahimahullah, lorsqu'il rapportait ce hadith, il pleurait. Et il disait, « Ya ma'ashar al-muslimin, al-khashaba tahinnu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shawqan ila liqa'ih, fa antum ahakku an tashtaqu ilayhi alayhi salatu wa sallam. » Et il disait, « Oh vous les musulmans, un morceau de bois, c'est du bois, le tronc, hein, il montre son envie de retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a cet amour et cette envie de le rencontrer. Vous êtes plus en droit d'avoir cette volonté et de vouloir rencontrer le prophète alayhi salatu wa sallam. » Wa ba'da hadha at-tamhid فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع وهو ما هي السلفية. Et après cette introduction, la conférence, le cher, puisqu'à la base c'est une conférence, comme vous l'avez entendu, le titre, il est large et qui est qu'est-ce que la salafia. ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع من كل جوانبه اخترت جملة من النقاط للكلام عليها. Et du fait que la situation ne permet pas, comme c'était qu'une conférence, de parler longuement sur le sujet en détail sous tous ses angles, alors j'ai choisi certains points, c'est-à-dire des points essentiels, importants, pour parler dessus. النقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة. Le premier point, clarifier le sens, la définition du mot salaf dans la langue. النقطة الثانية, deuxième point, من هم السلف اصطلاحا. Qui sont voulus par le terme السلف, c'est-à-dire le sens technique. النقطة الثالثة, troisième point, بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. Quelques noms qui sont donnés aux pieux prédécesseurs. السلف الصالح, il y a des surnoms qui leur sont attribués et donnés. Comme on verra ça plus tard, le sunnati wal jama'a, d'accord, et d'autres termes qu'on va voir inshallah. An-nuqtatu ar-rabi'a, point, le quatrième point, hukmu ittiba'i wal intisabi ila as-salafiyya, le jugement sur le suivi et l'affiliation, l'appartenance à la salafia. An-nuqtatu al-khamisa, cinquième point, fadlu ittiba'i salaf wa salafia, les mérites du suivi des salafs et de la salafia. An-nuqtatu as-sadisatu, sixième point, simat wa ma'alim al-manhaj as-salafi ou as-salafia. Donc, les points distinctifs, hein, ce qui discerne, distingue les gens de la vérité des gens du faux concernant la voie des as-salafia. An-nuqtatu as-sabi'a, septième point, al-khatima, c'est la conclusion, la finalité du livre. Wa fiha kalimat mudhi'a fil bab, et il y a quelques paroles qui éclairent sur ce domaine, ce chapitre. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.